carnet de campagne. Bonjour, je profite de cette semaine en Île-de-France, plus particulièrement dans le département de Seine-et-Marne, pour vous tenir au courant d'un événement francilien qui se tiendra au Corpus Fabrique, lieu culturel implanté au cœur de l'hôpital psychiatrique de Villévrard à Neuilly-sur-Marne. Alors, ça, c'est en Seine-Saint-Denis. Il s'agit du festival du film d'hiver. D'hiver, les fêtes d'hiver, mais d'hiver la saison. Voilà. Film expérimentaux, expérience singulière dans le domaine de la santé mentale, ce festival présentera une quinzaine de courts métrages, mais aussi de longs métrages, avec leurs réalisatrices ou réalisateurs, seront mises en lumière les possibilités de créer pour et avec des patients des films originaux. Et le festival va témoigner de ce que prendre soin veut dire. Rendez-vous les 9 et 10 février. Le site, c'est corpusfabrique.fr si vous voulez avoir de plus amples informations. Les invités de Seine-et-Marne sont Walter de Melknepfel pour l'association La Radio Itinérante, encore une incarnation des carnets de campagne par la collecte des pépites du département, et Arnaud Conan pour son association Un exploit pour Lila au profit des enfants handicapés ou malades.
France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Walter de Melknepfel, bonjour.
Bonjour.
Je me suis pas trop planté, je réessaye. Melknepfel.
C'est ça. Ouais. C'est bravo, c'est ça.
Ouais. Grâce à Héloïse sur la page Facebook des carnets de campagne, Héloïse qui est prof de chant, qui vous connaît bien, nous oui. pouvons entrer en contact avec vous, initiateur de la radio itinérante. Elle nous dit cette radio, c'est une radio mobile qui va se déplacer là où les gens se bougent, un mini carnet de campagne.
Bah alors oui, elle a parfaitement résumé la situation, c'est exactement ça. On s'est lancé dans ce projet en disant tiens, comment faire pour aller faire un peu découvrir des personnes incroyables qui font des trucs super, voilà, des chouettes initiatives dans nos campagnes. Mmh. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de créer une petite radio qui se déplace et qui va s'installer chaque semaine à des endroits différents pour du coup faire des émissions en faisant découvrir et faire rencontrer ce qui s'y passe, quoi.
Ouais. Et les programmes sont diffusés sur Internet.
Ouais, c'est un vrai choix assumé, un peu rigolo, et on s'est dit que c'était vraiment marrant de se concentrer sur ce mode de diffusion-là.
Il y a plusieurs choses inattendues chez vous. D'abord, c'est la couverture Seine-et-Marne, parce que votre siège est à Moret-sur-Loing, mais c'est Seine-et-Marne, Yonne et Loiret, autrement dit, trois entités qui n'ont rien à faire ensemble, parce qu'elles appartiennent toutes les trois à des régions différentes.
Exactement. Ouais, c'est histoire de pimenter un peu le challenge. Oui. En fait, c'est que Moret-sur-Loing, là où est installé le siège de l'association, notre radio, c'est vraiment aux confins sud de la Seine-et-Marne. On est vraiment à une portée d'arbalète de Lyon et même du Loiret. C'est vraiment des départements voisins. Donc, on est vraiment au cœur du Gâtinais, qui est une sorte de parc régional qui recouvre un peu les trois départements. Donc c'était assez évident. C'était surtout une histoire pratique au début, plus qu'une volonté de bousculer les codes administratifs. Quoi.
Mais comment vous procédez, Walter ? Vous vous installez dans un village ou au cœur d'un quartier ? Vous faites des annonces ? Il y a un travail au préalable ?
Oui, en amont. Alors en fait, les dates sont annoncées à l'avance. Et puis, du coup, on s'installe, alors soit dans des lieux complètement privés, parfois même chez des particuliers, dans des lieux communaux. Ça peut être un foyer rural, ça peut être une médiathèque, ça peut être les locaux d'une entreprise si l'acoustique est bonne. Et puis après, via les réseaux sociaux, on procède à quelques annonces. Et en général aussi, les lieux sur place relaient l'information dans leur réseau à eux, parce que nous, on débarque des fois dans une ville et on n'a pas vraiment de réseau sur place, donc on s'en remet aux gens qui, eux, sont là à l'année et font jouer leur réseau pour diffuser l'information. Et puis, hop, du coup, ça se fait connaître de cette façon-là.
Oui. Alors, vous découvrez des pépites, mais parfois, au milieu des pépites, il y a des choses moins intéressantes. Vous procédez comment, vous sélectionnez ?
Oui, on fait pas mouche à chaque fois, hein, c'est vrai, mais pour l'instant, je trouve qu'on a plutôt de la chance. On a vraiment le bol de faire vraiment des rencontres, même plus souvent plus incroyables que ce qu'on imaginait, que le contraire, que d'être déçu. Mais on part un peu en éclair avant, et on va faire des repérages, rencontrer les gens, discuter un peu avec ceux qui sont déjà sur place. Un tel nous dit « Ah, mais moi, je connais quelqu'un qui écrit des nouvelles, c'est vraiment incroyable. » Bon, alors on lit un petit peu, puis on se dit « Ah, oui, non, finalement, c'est pas terrible. » On met ça de côté, ouais. Et puis parfois, ça nous arrive aussi d'avoir quelqu'un qui nous dit Oh ben moi, il y a bien cet artisan là-bas dans le fond de son atelier. Oui, il bricole deux trois trucs. Et en fait, quand on va le rencontrer, on découvre un pur génie qui a un talent fou et qui fait des trucs vraiment sublimes. Et on a envie d'en parler.
Ouais. Et au fur et à mesure, vous allez créer une mémoire audio. Vous allez en faire quoi?
Oui, alors pour l'instant, en fait, on essaye au maximum de réaliser des émissions en direct, et puis réécoutables en streaming quelques jours plus tard. Et peut-être qu'après, en ayant un peu accumulé une matière suffisante, on pourra, je sais pas, imaginer sortir les meilleurs moments de tout ça. Il pourrait y avoir des choses à mettre en place.
Ouais. Ouais. Et si je peux me permettre, vous avez une voix drôlement radiophonique, c'est votre métier?
Oui, effectivement, ouais. J'ai la chance de travailler chez Radio France comme animateur radio. Ouais.
Mais où, à France Bleu?
Oui, exactement.
Ouais. Ouais. Mais donc France Bleu ne suffisait pas à répondre à votre passion et à vos besoins?
C'est très exactement ça. Oui, c'était pas pour le plaisir de ramener des devoirs à la maison en plus, c'était vraiment pour le plaisir aussi de s'offrir un petit espace de liberté supplémentaire, parce que bah, du coup on a l'avantage d'avoir très très peu de contraintes. Ça nous est arrivé de pouvoir déborder certaines émissions en direct parce que le contenu était super et qu'il aurait vraiment été frustrant d'interrompre. Et on prend le public à partie pour savoir si ça les intéresse, qu'on en discute encore quelques minutes de plus ou s'ils ont envie de rentrer chez eux. Bon, jusqu'à maintenant, on a remporté l'approbation du public.
Ah. Les pépites de la vie locale, pépites culturelles, sociales, économiques, avec la radio itinérante. Le site, c'est là, trait d'union radio, trait d'union itinérante.com. Et longue vie à votre belle radio.
Ah, c'est adorable, merci à vous, c'est chouette.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Encore une goutte d'eau qui grossit quasiment à vue d'œil, qui intervient auprès d'un public handicapé. Elle s'appelle ATF Gaïa. Son siège est à Moissy-Cramayel. Sa plateforme logistique est à Sénart. Son cœur de métier est le recyclage par le réemploi de matériel informatique, de télécom ou téléphonie mobile. Elle est comme bien d'autres entreprises dites adaptées, très vigilante sur son personnel qui est à 80% handicapé. Une goutte d'eau, hein, je vous disais. Ou une niche dans la grande économie circulaire du recyclage et pourtant, elle ne cesse de croître. D'abord, les chiffres annuels en disent long. En 2016, ATF Gaïa a traité plus de 200 000 articles ou matériels, dont plus de 57% ont été réemployés. Elle a vendu cette même année 103 000 matériels reconditionnés et plus de 42 000 pièces détachées. Avec un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros, elle affiche une progression de plus de 15% en 5 ans. Pas étonnant donc si dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées en novembre dernier, ATF Gaïa prévoyait d'embaucher 30 personnes supplémentaires cette année, en plus des 23 salariés du groupe. Parfois, les comparaisons sont stimulantes. Ainsi, selon une étude réalisée par l'ADEME, le réemploi, la revalorisation des matières permet d'économiser en un an en France 250 millions de litres d'eau, d'éviter l'émission de 26 millions de kilos de CO2, soit 4691 fois le tour de la Terre en avion. Ça parle hein, quand même. Et puis, dernière précision utile, une étude menée également en 2016 a déterminé que le retour à l'emploi d'une personne en situation de handicap représentait une moyenne de 11 000 euros d'économie pour la collectivité. Allez, on s'engage. ATF, trait d'union, Gaïa.fr. Second invité, Arnaud Conan. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Arnaud, président de l'association Un Exploit pour Lila. Une première question à Arnaud, avant de créer l'association, vous étiez sportif?
Oui, toujours fait beaucoup de sport dans les associations, beaucoup de badminton, et puis voilà, du vélo, de la course à pied, donc oui, le sport c'est quelque chose qui me plaît.
Mmh. Vous faites partie des parents qui sont frappés de plein fouet par la maladie de leurs enfants, et il s'agit en l'occurrence de Lila. Qui était porteuse d'une maladie génétique rare?
Oui, quand elle est née, Lila, en 2010, on nous a découvert le syndrome du cri du chat, qui entraînait retard de développement moteur et cérébral. Et puis on s'est battu avec elle pour lui donner pas mal d'aide. Et c'est un cancer qui l'a emmené, en fait, à l'âge de 2 ans et demi.
Oui.
Cancer qui n'était pas lié à la maladie génétique, donc elle a cumulé ces deux maladies rares, cette maladie du cri du chat et le cancer du jeune enfant.
Oui.
Et à la suite de ça, on a développé notre association.
Ouais. Vous êtes lancé dans cette aventure solidaire, mais vous auriez pu le faire au profit de la recherche sur les maladies génétiques rares, et vous avez pris une autre option.
L'idée de notre association, c'était vraiment de se dire on partage du temps avec les enfants différents, avec les familles qui ont des enfants en situation de handicap, et on fait du concret en local. Parce qu'avoir un enfant différent, ça pouvait amener à l'isolement.
Oui.
Et je me suis dit, non, il y a d'autres voies, notamment moi pour Lila, j'avais souhaité rapidement faire un siège vélo pour pouvoir faire du vélo avec elle. Et puis en fouillant, j'ai rapidement vu qu'il y avait du matériel adapté. Je me suis dit, mais ce matériel-là, il faut le mettre à la connaissance des familles. Donc on a pris cette voie-là pour aussi pouvoir partager ce temps avec des familles, je dirais, qui n'ont pas d'enfants en situation de handicap et se faire rencontrer les gens et se dire c'est possible.
Alors, ce que vous proposez dans vos actions, il y a beaucoup de sport. Il y a par exemple Lila Run.
Oui, alors ça c'est une action qui a été faite par un bénévole. L'idée c'est de se dire n'importe qui fait de la course à pied a envie de reverser pour les kilomètres qu'il parcourt 10 centimes à l'association et avec les fonds qu'on récolte nous permettent d'acheter du matériel ou de faire des actions avec les enfants.
Oui.
Le matériel qu'on achète qui sont les vélos fauteuils, les jouelettes et les hippocampes sont du matériel qu'on utilise pour la course à pied et pour le vélo. Oui.
Et à quoi correspond l'hippocampe?
L'hippocampe, c'est un tricycle un petit peu, ça fait comme une poussette trois roues,
ah oui, d'accord.
On va dire. Tout comme la joualette qui ressemble à une chaise de porteur.
Oui.
Et nous utilisons ce matériel en fait pour emmener les enfants sur des courses, notamment cette année un bénévole a accompagné une petite fille sur le semi-marathon de Reims. Donc tout ce matériel en fait nous permet de partager du temps avec les enfants autour du sport.
Oui. Il y a aussi des coups de pouce que vous proposez aux familles.
Alors notre action coup de pouce, c'est un soutien financier que l'on fait aux familles, notamment je pense cette année à des coup de pouce qu'on a financé pour un séjour au ski. On a financé aussi pour du matériel assez sophistiqué d'ordinateur à reconnaissance oculaire. Donc tout ça, ce sont des dispositifs que les familles peuvent saisir sur notre site et en fonction de leur projet, on les aide à le finaliser avec une aide financière.
Ouais. Alors, je précise quand même que les actions que vous menez sont sportives, mais aussi culturelles, avec Lila Moi, cette histoire. Ce n'est séance de lecture pour les enfants hospitalisés à Meaux.
Oui, Lila Moi, cette histoire, c'est né d'une bénévole qui souhaitait apporter une action sur un hôpital de proximité. Et puis nous, on avait vécu à travers notre histoire avec Lila des échanges vraiment fort avec des associations qui étaient venues nous faire passer du bon temps lorsqu'elle est hospitalisée. Et on s'est dit, ça, on va essayer de le développer sur un hôpital de proximité auprès de chez nous. Et on a une quinzaine de bénévoles qui se relaient un dimanche par mois pour aller lire des histoires aux enfants et aussi faire des jeux de société. Tout ça avec l'éducatrice du service qui nous permet de porter ce beau projet.
Ouais. Et puis alors donc, prochain rendez-vous, la 4e édition du Lila Poker Tour.
Le Lila Poker Tour, ce sont des bénévoles qui ont dit, nous on veut vous aider à notre manière, on organise un tournoi de poker. Les fonds reservent pour nos actions. Et ça fait partie de ces événements qu'on essaye d'être récurrents, comme la Cyclo Lila, où là on réunit près de 400 coureurs sur la commune de Clessouilly qui viennent partager cette matinée solidaire.
Et non, je voulais signaler quand même Lila Poker Tour le 3 février à 14h. Vous disiez Bayeux, alors c'est Bayeux en France, dans le Val d'Oise. Sort de Seine-et-Marne. Le site, c'est unexploitpourlila.fr, unexploitpourlila pour la page Facebook, et vous pourrez suivre les actions et y participer si vous le souhaitez, et vous serez les bienvenus pour tous ces enfants. Merci Arnaud, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Nous serons toujours en Seine-et-Marne la semaine prochaine. Ensuite, on va traverser une partie de la Bretagne. Et je rappelle l'appel à candidature. Si vous habitez le Loir-et-Cher, le Var, le Gard et l'Hérault, n'hésitez pas à nous écrire pour nous apporter des informations sur les initiatives que vous réalisez dans vos départements ou dont vous avez connaissance.